Sophie n'a...
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Sophie Rosemont, Mathilde Serrel, Olivier Lam et sur nos platines, Mr. Sal de Niska, Charlie de Charlie XCX, Adult Baby de Kazoo Makino et un coup de cœur de Sophie Rosemont pour Norman Fucking Rockwell de Lana Del Rey. Et nous ouvrons cette dispute avec Mr. Sal de Niska. Le troisième album de Niska, après les records de vente des deux premiers, est évidemment attendu. Comme à son habitude, le rappeur originaire d'Evry est très entouré, puisqu'on le retrouve sur la tracklist des featuring de Booba, Kobalade, Nino ou encore Us l'Enfoiré. En guise d'extrait, on va écouter Niska tout seul. C'est même le morceau qui ouvre l'album, c'est vrai.
Faire du cash, qui sait qu'on est frais. Rolex sur la poigne, qui sait qu'on est frais. Même si on est petit de taille, qui sait qu'on est frais. Libérer ma traîne, qui sait qu'on est frais. Ici c'est la mer, j'marche un pilon dans la main. Cartel Medellin, chacal comme Oteyama. J'fume de la beurre de dame, Waza Satou Ketama. Colos fait la queue, te pars demain dans la main. Au début du bail, ils nous ont baladés. Charolais fait dans les packs, pas disque d'or donc c'était pas assez. Sipini, sipinité, aucun d'entre eux pourra m'embarrasser. Niska va casser le mic, si Fugoro va s'en débarrasser. Dani a niqué le bail, papa a quitté le taf. Hugo, faut qu'on maille, parlons millions sinon c'est pas assez. Même si j'ai changé de phone, j'entends des échos, j'suis localisé. J'ai baigné au chantier du coq, du bâtiment B aux Champs-Élysées. Un jour le monsieur m'a dit, tu sais dans la vie on oublie la mort. Quand j'ai goûté les balles, j'ai réalisé qu'il avait pas tort. Congo, Brazzaville, tout le monde m'attend à l'aéroport. Pick up au char au squat, vous inquiétez pas, je resterai fort. Tu veux faire la maille?
Est-ce que t'as capté la base?
Showcase par la night.
Est-ce que t'as capté la base?
J'ai tout pris grâce au sale.
Est-ce que t'as capté la base?
Hugo, faut que je me taille. Faire du cash, qui sait qu'on est frais. Rolex sur la poigne, qui sait qu'on est frais. Même si on est petit de taille, qui sait qu'on est frais. Libérer ma traîne, qui sait qu'on est frais.
Sipinité, sipinité. Sipinité, sipinité.
Faire du cash, qui sait qu'on est frais. Rolex sur la poigne, qui sait qu'on est frais. Même si on est petit de taille, qui sait qu'on est frais. Libérer ma traîne, qui sait qu'on est frais.
Niska, vrai, c'est le premier morceau de ce troisième album. Et à Sophie Rosemont qui s'inquiétait, on fait plus les petites phrases avant la dispute. Eh ben, c'est maintenant. Un résumé, un condensé de votre sentiment avant de débattre. Et c'est d'ailleurs vous, du coup, qui allez nous résumer votre sentiment sur cet album de Niska, Sophie.
La première fois que j'ai écouté cet album, je me suis retrouvée à dodeliner de la tête de façon intempestive, vraiment. C'est un album hyper, hyper accrocheur.
Mathilde Serrel.
Moi, pour moi, oui, c'est un album de faux dur.
Ah, Olivier Lam.
La vitalité, l'état pur.
Voilà. Eh bien, c'est maintenant le moment de développer et le tirage au sort a désigné Mathilde Serrel pour ce faire.
Alors, pourquoi je dis album de faux dur? Car nos camarades de Libération
de vrai mou
l'ont relevé. Ah non, surtout pas de vrai mou.
Imaginez. On puisse entendre ça.
Il y a une dualité dans l'album de Niska. Je trouve que c'est incroyable comme le niveau de lecture s'enrichit au fur et à mesure de l'écoute. Il y a énormément de second degré. Récemment, il y a un clip d'Oxmo Puccino et Aurel San qui est sorti. On a réussi notre life. Et c'est cette idée que le rap se met à se moquer finalement de ses propres clichés, de ses propres attendus. Il y a notamment un titre génial où il va se mettre à prendre une fausse voix pour reproduire un petit peu des stéréotypes de dialogue. Ça s'appelle, c'est un des exemples de dualité. Dans Bâtiment, il y a également, je trouve, une façon de dire ce qui ne marche pas aussi avec les filles. C'est-à-dire qu'après un rap assez engagé dans les clichés grossiers à l'égard des demoiselles, là c'est des filles qui rappellent pas, c'est des filles qu'on n'aurait pas dû appeler, etc. Donc il y a une vraie faiblesse affichée derrière des titres qui sont à la fois parfois extrêmement puissants et énervés, comme par exemple La Zone est minée, le secteur est devenu mort, il faut encore appeler les porcs, donc les flics sur zone. Donc c'est à la fois très dur et très guerrier comme titre, et des titres beaucoup plus doux. Et donc finalement c'est en permanence sur les deux registres, et aussi en permanence avec ce texte de Niska qui a l'air de ne pas être ce qu'il annonçait dès le départ, et qui est une sorte de manuel aussi de survie dans la thèse. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'aurait pas compris ni la syntaxe ni le langage de ce rap, et qui peut-être le prendrait de haut, ou alors aurait besoin de lui donner une légitimité littéraire dans des colloques, là tout d'un coup c'est toute cette syntaxe qui est extrêmement bien maniée. C'est comme si il avait compris après tous les rappeurs la poésie qui existe, mais qu'il n'avait pas besoin on va dire de faire des belles formules, mais simplement d'avoir tellement intégré ce vocabulaire et cette syntaxe que finalement il l'a fait sonner, moi j'ai l'impression, comme personne. Et c'est très différent d'une démarche à la Aurel San. Et c'est pour ça, je trouve que c'est un pendant du rap qui nous rappelle, même si c'est devenu la musique la plus populaire de France, que cette théorie du rap variété ne tiendra pas.
Sophie Rosemont, pour développer après avoir dodeliné de la tête.
Contrairement à Charlie XCX qu'on va écouter plus tard, qui ouvre son album entouré de collaborations pour sans doute s'affirmer davantage, lui, Niska, ouvre tout seul, il assure tout seul le spectacle. Je trouve que c'est vraiment un troisième album parfaitement maîtrisé, pas seulement du point de vue des rythmiques, des instrumentations, que moi je trouve assez fortes, mais aussi par déjà la richesse des influences, évidemment le gangsta rap, dont il reprend les thématiques à sa manière, les échos trap de ses tout débuts, évidemment toutes les musiques traditionnelles du Congo, des influences créoles, quelques petits relents de Cloud, et en fait une espèce de mixture qui pour moi aussi est très pop, finalement, sans être variété, justement. Il y a des titres comme celui qu'on vient d'écouter, vrai, La Zone est minée, Valise, les refrains sont hyper addictifs, il y a vraiment quelque chose, pour moi, qui se rapproche de la pop. Et côté thématique, c'est vrai qu'on est plus dans le gangsta rap a priori. La vie de voyou, les voitures, les trafics de drogue, les filles.
Même morceau méchant pour
les
ça.
Les filles forcément faciles. Alors,
c'est là où il fait des imitations.
Oui, oui.
Voilà, les filles forcément faciles. Donc là, après, la part de la distance ou pas, soit c'est un autre débat. Mais il y a aussi cette mélancolie, de cette fatalité subie du banlieusard, le rapport au succès, l'inquiétude obsessionnelle quant à l'argent, qui revient tout le temps. Et l'argent, c'est ce qu'on trouve sale quand on n'en a jamais manqué. Et d'où, quand il dit on répond sale par le sale, c'est ça aussi. Donc il y a vraiment l'aspect que moi je trouve très, très intéressant du point de vue politique. Et au-delà de tout ça, c'est pour moi un disque de victoire. De victoire sur le déterminisme social, justement, charognard à la vie, à la mort, dit-il. Et aussi une assez bonne prise en main de l'ego trip. Il est plus performeur, incarnation, comme le disait Mathilde, de son entourage, tant du point de vue urbain qu'humain, que tout ce qu'on peut prêter à des rappeurs un peu lambda. Et le gimmick méchant, que je trouve assez intéressant, balancé un peu partout, on veut dire beaucoup.
Olivier Lame.
Oui, il y a une polysémie intéressante autour de Salle, justement, parce qu'il dit, lui, il l'orthographie de deux manières. Il y a Salle avec un E et Salle sans E. Sans E, ça veut dire vrai, et avec E, ça veut dire Salle, éventuellement. Enfin, on est sur la même, ambiguïté, la même contradiction que Bad, par exemple, aux États-Unis dans les années 80. Mais je trouve que ça raconte quand même quelque chose quand même sur ce rapport à l'argent qui est pas moins problématique pour un jeune rappeur qui a énormément de succès que pour n'importe qui d'autre dans la société occidentale, française notamment. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que normalement, à ce niveau d'attente de notoriété, parce que bon, là, on parle quand même de rappeur qui rappait sur Sapé comme jamais de Maître Gims et qui a surtout qui a fait un tube absolument énorme avec Réseau. Quand on sait qu'on est écouté partout dans les soirées étudiantes, aussi dans les cours d'école, et également par les spécialistes de rap qui savent à peu près déconstruire n'importe laquelle de vos influences, y compris du côté du rap américain, normalement ça s'agit, on se trahit en quelque sorte. Et là je trouve ça intéressant parce que Niska et aussi beaucoup de rappeurs de ses contemporains, il sait que s'il passe de l'autre côté, ça devient absurde en fait, il va enlever une sorte de force vitale s'il enlève la méchanceté, les codes, les filles, la thune, etc. Du coup il met tout d'un coup en fait, c'est-à-dire il y a vraiment une dualité absolument, je trouve, fascinante dans sa musique. C'est pour ça que je parlais de dualité récemment. Il y a une phrase super, il dit pour les gosses, je vais t'insulter poliment. Et après, il dit Kounia maman, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais il sait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, et y compris dans sa manière de composer. Il y a les gimmicks, il est très très fort en termes de composition mélodique. C'est vraiment ce qu'on appelle ça un top liner, mais lui, c'est quelqu'un qui fait ça de manière totalement naturelle. Et en même temps, effectivement, il y a un rap très très guerrier qui sait exactement, qui ne peut pas ne pas prendre en charge cette réalité qui fait qu'aujourd'hui, quand on grandit en banlieue et qu'on est d'origine congolaise par exemple et qu'on est immigrant de deuxième, troisième, quatrième génération, peu importe, on vit un racisme d'État et tout ça est pris dans les contradictions, y compris des fois dans la même chanson, d'une phrase à l'autre, où il peut être tout d'un coup complètement mongoloïde, enfin vraiment dans un sens dire une grosse bêtise, un truc un peu et chanter un refrain presque à la Carlos, et à côté de ça dire quelque chose d'extrêmement mélancolique, très radical sur sa situation. Et c'est quasiment à tous les niveaux, j'ai envie de dire, dans toutes les couches de chaque morceau. Alors après, moi je trouve le disque presque trop dense et trop sucré, trop un peu étouffant. Je trouve qu'il est bien meilleur quand même sur les morceaux plus rap que sur les morceaux plus pop. Les morceaux mélancoliques sont quand même moins réussis. J'aime tellement Stop, tellement Gang ou Méchant que je trouve qu'à côté, Hasta Luego, Monsieur Sal, sont les morceaux qui sont un peu plus moins spontané, je pense, plus calculé. Du coup, l'équilibre qui est vraiment très, qu'il arrive à trouver, s'écroule un peu. Mais c'est vraiment, je trouve ça très intéressant que ce soit le rappeur le plus influent aujourd'hui. C'est arrivé très très vite, en 3-4 ans. Et je trouve qu'il y a, dans sa musique, il y a tout, même quand il revendique vraiment, quand il dit qu'il roule en voiture très chère, qu'il en a une deuxième, qu'il s'en fout, etc. Je trouve qu'il y a une sorte d'humilité, et je pense qu'elle est liée aussi au fait à son ancrage. C'est vraiment quelqu'un qui habite à Évry, qui est dans sa cité, et qui je pense quand il fait c'est un disque comme ça, il laisse sa structure, etc. Il sait qu'il n'est pas tout seul, qu'il emmène avec lui ceux qui l'accompagnent, ceux qui l'écoutent. Et il y a quand même quelque chose, il y a vraiment une évolution, je trouve, dans l'histoire du rap français, dont il est revendicatif de bien des manières. Je vais juste terminer sur le côté imitation. C'est un rappeur un peu à personnalité multiple. Il est très original et très impressionnant pour ça, parce qu'il peut vraiment, dans le même morceau, chanter de manière assez mélodieuse avec autotune ou pas, et tout d'un coup se met vraiment à beugler avec une force, avec un accent aussi, on a l'impression qu'il récupère quelque chose de son héritage congolais, il est unique, quoi, Niska. Il y a vraiment, on comprend pourquoi il est là où il est en écoutant en un demi-morceau de cet album.
Mais parfois c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un featuring alors que non, puisque
c'est lui. Featuring lui-même.
Non, et ce qui est aussi assez appréciable, je dois dire, même ça fait un peu vieux grognon, c'est que c'est un rap dont on comprend absolument toutes les paroles à la première écoute. Enfin, il y a quelque chose dans son phrasé, dans son articulation, dans son flow. Il a vraiment envie de faire passer des messages. Il a des choses à nous dire et nous les fait entendre, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres rappeurs. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a grandi très très vite, et c'est assez étonnant de on aurait pu s'attendre à ce qu'il se brûle très vite. Au contraire, là, ce disque-là marque, bon, je crois qu'on l'a tous dit d'une façon ou d'une autre, une forme d'assurance qui est assez impressionnante pour son jeune âge. Je ne sais pas quel âge il a, ce jeune homme. Enfin, il a
son 23, 24
ouais, 25, non, enfin, c'est ça, 25 à tout casser. C'est très impressionnant. Bon. Je trouve aussi l'album un peu trop long, mais ça, on a souvent dit, les histoires de nombre de pistes, problèmes industriels pour avoir plus d'écoute et donc plus de streaming. Et
30 secondes d'instrumental à la fin d'une chanson, par exemple.
Voilà, c'est pas toujours absolument justifié. Et de fait, il y a un peu des baisses d'énergie qui sont pas seulement liées au fait que les tempi ralentissent, mais que, effectivement, moi, je trouve qu'il est bien meilleur dans l'énergie, que dans, voilà, les chansons un tout petit peu plus calmes. Un mot encore, Mathilde Serrel ?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un... Il y a eu, donc je parlais un peu de ce méta-rap hein, tout à l'heure, cette façon de regarder le rap dans ses clichés et d'en jouer. Je trouve qu'il y a eu aussi, notamment dans l'album de Nekfeu, une tendance un peu grand frère à dire, voilà, moi je suis revenu de ça, il y en a qui sont morts, il y en a qui s'y sont perdus, et à essayer de tendre la main pour enseigner un petit peu, pour avoir une sorte de discours un peu édifiant. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que c'est tellement... en effet, polysémique et ambigu, qu'il y a un degré de moralité qui est assez introuvable sur le disque, et c'est ça qui est très appréciable. On ne sait pas vraiment quel clan il a choisi, il n'a pas spécialement d'enseignement à donner, mais en même temps, sourde des leçons, des choses qui sont des témoignages d'une dureté, qui sont des témoignages aussi de mauvais choix, de pièges qui se referment, et donc on sent que c'est une belle façon de le transmettre et de le décrire, mais un degré de moralité où tout le monde va pouvoir circuler. J'ai l'impression que du coup, ça ouvre à une prise de conscience beaucoup plus intéressante que des albums un peu de repenti. J'ai l'impression que j'entends en ce moment dans le rap. Et c'est ça que je trouve qui réussit parfaitement. C'est de ne pas être dupe de ce jeu, de mettre en garde tout en s'y engageant d'une certaine manière. Et ça, c'est, enfin, je trouve que c'est un point d'équilibre qu'il faut saluer.
Sophie Rosemont.
L'humour aussi, quand même. Je trouve que il joue vraiment beaucoup avec la caricature. Donc, la caricature des autres, la sienne, la caricature de sa caricature. Et l'humour fait passer des discours qui pourraient paraître complètement aberrants. Sans l'intonation de sa voix et ce qui l'entoure. C'est là où il est effectivement assez fort.
Olivier.
Non, mais juste un disque, il y a beaucoup de travail.
Ouais.
Donc, moi, je trouve c'est appréciable et c'est un gros, gros bosseur. On sent que, voilà, on lui avait prédit qu'il ne durerait pas parce que c'est qu'on a fait saper comme jamais. Et aussi parce que ses refrains ont l'air complètement crétins. Enfin, je veux dire, pouloulou. Enfin, bon, voilà, on a tous chanté ce truc. Et il prouve aussi que dans les choses les plus qui ont l'air d'être les plus simples et les plus idiotes c'est toute la pop hein. En apparence il y a du travail, il y a de la force. J'aime bien beaucoup la force de ce disque.
Ouais, parce que She Loves You yeah, c'était pas non plus hein.
Précisément.
Donc c'est bien de ça qu'on parle, et puis quand même les featuring, il est toujours bien entouré, parce que soit l'Enfoiré, Nino, Kobalade, il les utilise, je trouve, à chaque fois extrêmement bien. Enfin, il les invite pour une raison qu'on entend, il me semble, dans chacun des morceaux, et même Booba aussi, utilisé d'une façon assez...
Il en imite le flow aussi. Hein.
J'adore médicament. De manière... inviter Booba pour être romantique, ça, moi, je trouve que c'est merveilleux. Je suis sûr que quand ils se voient, ils parlent de leur gamin. Enfin, il y a vraiment ce truc...
Il le fait tenir ses valises dans le clip, comme ça, quand même. Ça, c'est génial.
J'ai pas vu ça.
Booba tient les valises de Niska dans le clip, et quand j'ai vu ça, j'ai eu quand même un fou rire.
Bon, il faut que je regarde les clips. En plus d'écouter ce que je fais un peu en boucle, là, ce disque de Niska, enfin, ça fait à peine quelques jours, qu'il est sorti et qu'on peut savourer, Mister Sal chez Capitole, et puis il y a des concerts à venir. Ça commence le 13 mars à Amnéville, il y aura Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Rennes, Toulouse, ça c'est le mois de mars. En avril, Rouen, Marseille, Lyon, Genève et l'Accor Hôtel Arena à Paris. Le 21 avril pour Niska, suivre à dispute Charlie XCX, Kazu Makino et Lana Del Rey.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Charlie, le titre de l'album de Charlie XCX chez Asylum Records, Atlantic Records, l'anglaise qui a un parcours un peu chaotique. C'est vrai qu'on a souvent dit que ses plus grands succès, les plus grands succès qu'elle a écrits ont été chantés par d'autres, mais pas par elle. Elle a en plus des démêlés avec sa précédente maison de disques, ce qui l'a amené notamment d'ailleurs à sortir une mixtape gratuite il y a 2 ans où elle se lâchait, enfin, pourrait-on dire. Alors, ce nouveau disque, Charlie, nouvelle maison de disques, est-ce qu'il allait suivre cette voie ou est-ce que la musicienne allait rentrer dans le rang? La réponse sera peut-être une réponse de Normand, ce sera peut-être la mienne en tout cas. Premier sentiment sur ce disque, Mathilde Serrel?
La fête est finie, point d'interrogation.
Olivier Lame?
Un disque qui, je pense, aurait été accueilli très très chaleureusement, en tout cas par moi, de la part de n'importe qui d'autre. Et là, je suis déçu parce que voilà.
Parce que c'est elle.
Parce que c'est elle et qu'elle a fait des choses vraiment parmi les plus dingues de la pop anglo-saxonne de ces dernières années.
Sophie Rosemont? Oula.
Aussi agaçante qu'attachante malgré tout.
Oula, c'est dit avec tellement de soupirs dans la voix. Je propose de vous remettre un peu en écoutant 2099. Et de récrimination pendant l'écoute de Charlie XCX. En premier lieu, Sophie Rosemont, qui se demande ce qu'elle a fait pour mériter ça. Je résume un peu votre sentiment. Et vous allez pouvoir le développer, ma chère Sophie, par rapport à ce disque.
Bah, c'est vrai que l'album commence très mal avec un titre nommé Next Level Charlie où sa voix est tellement agaçante que c'en est inécoutable. Puis après, il y a des choses quand même un peu mieux. Parce qu'elle a quand même une voix intéressante, mais qu'elle emploie dans ce qu'elle a vraiment de plus nasillard, façon MIA, donc cette chanteuse qui a connu le succès, on va dire, la dernière décennie avec Purple Planes, mais avec l'autotune pas forcément bien utilisé, et du coup ça la rend hyper banale. Donc elle commence son album avec une tonne de... Je ne verrai pas featuring de collaboration.
C'est bien, bravo.
Voilà.
Vous avez un bon point.
Voilà, de collaboration. Alors là, il y en a plein. Alors là, il y en a plein. Et puis il y a Christine the Queen. Et puis il y a les Raïm.
Une idée du goût.
Voilà, il y a plein de d'artistes qu'on pourrait qualifier dans la mode, n'est-ce pas? Pour un peu
dans
affirmer,
le vent.
Dans le vent. Pour affirmer cet album qui s'appelle Charlie, qui donc pourrait interpeller la notion d'autoportrait. Mmh. Alors après, ça va mieux, la deuxième partie, étonnamment. Je crois que la première partie était censée être la plus accrocheuse, moi vraiment me tape sur les nerfs. Et puis la deuxième partie, il y a des bons morceaux. Bah, le duo avec Lizzo, que je trouve quand même plutôt agréable. Après, j'aime beaucoup Lizzo, donc je suis peut-être pas très subjective. Official, que je trouve bien. La voix est moins maniérée, les rythmiques sont dingues. Un très bon titre, Check It, espèce de rap partagé assez expérimental. Donc là, on a deux titres d'affilée qui sont là, oh, c'est super. Puis après, oh là là, il y en a encore deux, dont l'horreur qu'on vient de passer.
Et qui clôt l'album.
Et c'est vrai que c'est une admiratrice éperdue de Britney Spears. Donc elle l'assume. Elle a décidé de le devenir comme on doit l'être en 2019, c'est-à-dire un peu radicale, arty forcément, on le voit avec l'identité visuelle.
Très dévêtue sous cette pochette.
Lady Gaga, sexy mais féministe, un peu trash. Elle revendique son apprentissage dans les clubs et les raves. Langue apparemment surtout pas de bois, mais enfin bon, on n'est pas toujours sûr. Mais derrière tout ça... Elle a beau dire, l'underground et le commercial ne connaissent pas encore des frontières si poreuses, et parfois on s'y perd. Et là, je trouve qu'en fait, qu'elle s'y perd. Même si je trouve qu'après, que ça soit ses paroles, cette espèce de mélancolie en filigrane, cette méfiance qu'elle a envers le reste de l'humanité qui m'a touchée, et, ne suffisent pas. Pour terminer rapidement, laisser la parole à mes camarades.
Mais vous reviendrez, Sophie. Olivier Lam, déception après cette mixtape que j'évoquais.
Oui, je suis obligé de la défendre du coup. Mais je trouve que c'est une artiste.
Obligé de rien.
Non, mais je veux dire parce qu'en plus moi le morceau qu'on vient d'écouter, je le trouve relativement incroyable.
Ce qu'on pouvait diffuser parce que l'album ne sort que vendredi.
Moi, j'ai découvert chez AlexisX vraiment au tout début, un peu par hasard. À l'époque, c'était une sorte de monstre internet qui se disait fan des Spice Girls, mais qui faisait des chansons tout seul dans sa chambre en chantant sur du Rat of Noise, sur MySpace, sur YouTube. Ça date, on parle vraiment début des années 2010, elle avait 14 ans à l'époque. Voilà, vraiment un tourbillon, mais dans lequel elle a trouvé une identité. Et surtout en 2015, elle a percuté de plein fouet un collectif qui s'appelle PC Music, qui est un collectif qui fait une chose britannique, mené par un artiste qui s'appelle A.G. Cook, dont faisait aussi partie Sophie, cette artiste transgenre qui produit notamment Madonna et qui a fait un disque absolument incroyable l'année dernière, et qui s'est défini par un rapport vraiment ambigu, et moi je trouve vraiment passionnant au mainstream, à la fois critique et totalement décomplexé. Le mot hyper est très, très souvent utilisé pour parler de ce collectif, qui correspond à la fois à l'utilisation de sonorités synthétique qui renvoie évidemment à la notion d'hyper-réalité, cher à Baudrillard, mais on y est vraiment, et ils ont A.G. Cook est devenu vraiment le directeur créatif de Charlie XCX, et ils ont commencé à collaborer ensemble d'une manière, moi, que je trouve unique dans le champ de la pop aujourd'hui. Ça a donné d'abord un single qui s'appelait Vroom Vroom, ensuite donc deux mixtapes, pas une seule, mais la première qui s'appelait J'ai un trou.
C'est la première ou la seconde Pop 2?
Pop 2, c'est la deuxième.
La deuxième, la première, c'est... je ne sais plus. Bon,
ça me reviendra. Bref, c'est pas grave. Number One Angel, si j'ai pas de conneries. Bref, Number One Angel, c'est ça.
Allez.
Il n'allait pas nous lâcher tant qu'il trouvait pas le titre.
Il est là. Il a même dit un gros mot en passant.
Si les auditeurs veulent chercher, c'est important.
Mais quand on aura fait toute l'histoire, il faudra qu'on parle de ce disque. Vous savez qu'il est 9h32.
Il se trouve que Pop 2 terminait par un morceau qui s'appelait Track 10, qui était un sommet, moi, un des plus beaux morceaux de pop. électronique de ces dernières années, qui est à la fois totalement mainstream et totalement expérimental, vraiment d'une audace formelle et surtout extrêmement émouvant. Et c'est le morceau qu'elle reprend ici sous le titre Blame It on Your Love, qu'elle reprend avec Lizzo et qu'elle a remanié avec Stargate, qui est un duo vraiment qui produit tout ce que les charts peuvent contenir de plus banal. Et je trouve que ça révèle quelque chose de sa volonté, effectivement, de ménager deux choses. Ce côté très hyper technologique, effectivement, de voix passée par mille choses, qui prend en charge énormément de choses de l'époque, notamment, vraiment, elle a beaucoup de collaborateurs transgenres. Donc, on a cité les artistes les plus connus, mais il y en a d'autres. Il y a Big Freedia, de la Nouvelle-Orléans. Il y a Troye Sivan. Enfin, il y a quand même Vita. D'autres gens.
Pablo Vita.
Pablo Vita, voilà. Et Cupcake aussi, qui est une rappeuse très intéressante. Elle veut trop en faire, elle veut être Taylor Swift et le futur en même temps. Et du coup, le disque est vraiment dans le si. Et je trouve quand même que, allez, les deux tiers de l'album sont quand même, je pense, déjà l'album mainstream le plus intéressant qu'on entendra cette année.
Allez, moi, je pense vraiment. Mathilde Serena. Ouais.
Ah non, moi je suis pas sur les deux tiers. Justement, ma théorie c'est que c'est un disque moitié-moitié.
Ouais, moi je suis comme vous.
Il y a même
c'est le côté normand de ma réponse.
Oui, il y a même une chanson de bascule, je pense, I Don't Wanna Know, qui démarre un peu comme le Diamonds de Rihanna, un petit peu comme si on larguait justement les chaînes de cette pop pompière qui ouvre tout le disque, et qui soudainement on entrait dans un deuxième disque où justement voilà cette surprise qui est Official, qui est une chanson beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, où la mélancolie en filigrane dont parlait Sophie se ressent. Et puis c'est vrai,
vous pas le droit de la diffuser parce que le disque sort vendredi,
exactement, voilà, donc il y a
on n'a pas pu l'entendre ce soir.
Et puis voilà, il y a quelques extraits voilà qui sont autorisés. C'est bien verrouillé parce qu'effectivement c'est une grosse machine pop Charli XCX. Donc Official, c'est une très belle surprise et c'est aussi une intériorité, parce que effectivement quand on appelle un album Charli et que finalement on invite tous les copains qu'on parle de rien précisément, c'est décevant. Donc dans Official ça commence à se préciser. Shake It, avec toute cette bande donc un peu trans de Los Angeles, très réjouissante, enfin évidemment, enfin c'est effectivement dans des costumes synthétiques, c'est des couleurs, c'est de l'outrance, c'est des personnages, ils sont là, les Christine and the Queens, les Queens qu'a connu Christine and the Queens à Londres, quoi. Il y a une atmosphère cabaret complètement folle et ces voix donc dans ce titre Shake It, cette espèce de d'anthème comme ça collective, je trouve que c'est extrêmement réussi. Et puis le disque va lentement vers son déclin jusqu'à 2099 qu'on a écouté, donc il a une très très courte apogée et une introduction pour moi totalement inutile, mais c'est vrai que il y a comme une sorte de nostalgie instantanée moi dans ce disque. J'ai l'impression que il est déjà en train de dire qu'il sait pas vraiment comment est-ce qu'il va donner encore un grand coup de pied dans la pop, comme effectivement ce que Charli XCX a pu faire précédemment. C'est vrai que, enfin, les hymnes de le Fancy avec Iggy Azalea, le I Love It avec Icona Pop, le Boom Clap, toutes ces choses-là, Breaks, toute cette espèce de d'attitude très jouissive, très intrépide, très hédoniste, ce pouvoir comme ça très très sexualisé, très libéré, on a envie de le retrouver dans ce disque et on a l'impression qu'elle n'y arrive pas et peut-être qu'elle se demande si c'est encore possible. Et dans le titre 1999, pour le coup, qui est donc dans la première partie, celle qui selon ma théorie n'est pas la bonne. Elle a fait tout un clip, Charli XCX, très drôle, où elle va se mettre dans toutes les postures de la pop culture des années 90, on la retrouve en Steve Jobs, on la retrouve dans les groupes de boys band, à mimer tout ce qu'était justement cette machine de la pop. Et soudainement, dans le titre, ils disent, si on voulait revenir là-bas, est-ce qu'on saurait comment faire? Et est-ce qu'on saurait encore faire un truc pareil? Moi, j'ai l'impression qu'elle cherche justement la recette de ce que serait cette pop intrépide et frontale aujourd'hui en 2019, et qu'elle n'y parvient pas à un moment où une Billie Eilish, hop, coupe la route et arrive en plein été.
Après ces longs exposés, je vais devoir conclure sur ce disque de Charli XCX. C'est vrai qu'elle m'a semblé moins sur courant alternatif, mais je ne développerai pas ce propos déjà bien trop court, car je n'en ai pas le temps. Si je voulais ajouter
quelque
chose.
I don't care, I love it.
C'est ça. Ce disque donc amènera Charli XCX en concert. Non, je me disais qu'il faudrait vraiment que je pense à regarder les clips avant ces émissions, et puis d'une façon générale. Il me semble que je rate une bonne part des choses importantes pour parler de musique de nos jours.
C'est un support de la musique.
Je suis pourtant la génération MTV, je ne comprends pas. Je ne regarde pas les clips, c'est très mal. Je ferai mes devoirs mieux la prochaine fois. Elle sera en concert, Charlie XCX, le 2 novembre à Paris, c'est le Pitchfork Festival. Le 17 novembre à Lyon et le 24 novembre à Luxembourg pour aller voir sur scène ce que ça donne. Est-ce que ça penchera d'un côté, de l'autre? Est-ce que
sur scène, ça vaut le coup quand même.
Bah, je crains que ce soit plutôt dans la première partie du disque. Malheureusement. Que la couleur de... Bon, on verra. Faut pas prêcher avant de l'avoir vu et entendu. C'est l'heure du coup de cœur, le coup de cœur de Sophie Rosemont, au moins un disque qu'elle va pleinement aimer a priori. C'est le disque de Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell, chez Polydor. Deux options, puisqu'on va écouter un extrait d'une chanson, soit on l'écoute tout de suite, soit on l'écoute après.
On l'écoute tout de suite.
The Greatest.
Long Beach and I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the Beach Boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. Nobody wants you before the fall.
Olivier Lam fait ce solo de guitare, c'est à vous la parole, Sophie Rosemont. Pour parler de ce disque de Lana Del Rey, dont je me surprends à penser qu'elle a peut-être pris des cours de chant. Et elle a bien fait.
Oui, voilà. Ce qui est surprenant dans certaines critiques de l'album, même si elles sont globalement positives, c'est d'entendre qu'il n'y a pas de tube. Et c'est ce que lui a reproché son label américain, Interscope, qui voulait absolument reculer la date de sortie de l'album. Et Lana Del Rey a tenu bon, et elle a eu raison, parce que les 14 morceaux du disque sont... pas des tubes calibrés, effectivement, comme une certaine Charlie, mais de vraies belles chansons. La pop est à la fois folk, romantique, mythologique toujours, nostalgique, contemporaine. Et comme toujours chez Lana, il y a une multitude de références très naïvement citées. C'est ce qui fait son charme. Entre les Beach Boys, là on vient de l'entendre, Crosby, Stills and Nash, ces références du Laurel Canyon qui est définitivement fini depuis longtemps. Et la reprise d'un titre de Sublime, groupe californien des années 90 qui célébrait le surf et les bonnes vibrations avant la mort par overdose de son chanteur. Le dit morceau samplant lui-même Summertime. Donc là, l'amour de la citation est un art hein, aussi chez Lana Del Rey. Et au-delà de ces désillusions amoureuses, Lana Del Rey raconte ici la grande illusion du rêve américain agonisant. Les mélodies, l'orchestration dénuée de coquetterie urbaine ou bluesy qui pouvait y avoir dans les précédents disques, la production assez efficace de Jacques Antonoff et surtout la voix de Diva est parfaitement maîtrisée ici de Lana Del Rey. Je les trouve irrésistibles. Je pense que Norman Fucking Rockwell est son meilleur album depuis Born to Die, hein, de très loin. Parce que même s'il a toujours joué de sa vulnérabilité, de son regret du monde d'hier, ici elle l'illustre avec un mélange de premier degré et de distance ironique très très maîtrisé. le tout sous le soleil de Los Angeles, dont les idoles ont brûlé depuis longtemps. À quelques jours ou à quelques décennies du Big One, ce tremblement qui terrifie tous les Californiens, mais Los Angeles, où il fait bon surfer, s'étendre sur les sables en regardant l'océan tout en fantasmant sur la possibilité d'un amour éternel, à défaut d'une île, comme celle de Kazoo d'ailleurs. Et oui, Lana Del Rey avait raison, il fallait sortir cet album avant la fin de l'été. Et il est très beau et je recommande voilà, à tout le monde de l'écouter.
Norman Fucking Rockwell, et elle sera là en concert
elle sera là
en
février. Voilà, à l'hôtel Accor Arena, enfin à Bercy quoi.
Ça s'appelle comme ça maintenant. En effet, le disque est sorti chez Polydor.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Le dernier disque à notre sommaire ce soir, c'est Adult Baby, de Kazoo Makino, chez Adult Baby Records. C'est la chanteuse de Blonde Redhead qui sort son premier album solo avec quelques invités prestigieux, tout de même au premier rang desquels notre vénéré Ryuichi Sakamoto. Qu'est-ce qu'elle avait à dire à l'orée de la cinquantaine seule? Réponse en 9 morceaux, 42 minutes, dont celui-ci, Come Behind Me. So good.
Watch them blow and blow away. Yo, yo, I'm so glad to stay. May all the madness go. Yeah, may.
Un premier tour de table pour un condensé de la critique, c'est-à-dire qui ne sera pas très longue, vu l'heure qu'il est, que vous développerez ensuite sur ce disque de Kazu Makino. Olivier Lam, pour commencer.
Merveilleux.
Mathilde.
Message in a bottle.
Massage ou message?
Message.
Ah oui, parce que l'accent était, j'étais pas sûr, sûr.
Vous moquez pas.
Un tout petit peu. Sophie, heureusement.
C'est pas une blague, mais j'allais dire merveilleux, donc bon bah. Pff.
Merveilleux.
Bah, bis repetita.
Placente. Olivier Lam.
Ouais, c'est un disque dont on tombe amoureux, donc je suis tombé amoureux de la meilleure des façons, je pense, comme on tombe amoureux d'un homme ou d'une femme qui nous interroge, nous fait douter. Je suis dans la bonne position là.
C'est mieux.
Nous fait douter, dont on sait qu'à l'avance qu'il va nous changer. C'est un disque qui est plein de mystères, comme ceux les premiers. Ça ne nous rajeunit pas, mais moi que j'ai découvert à l'époque de Blonde Redhead, notamment Fake Can Be Just As Good et surtout Melody of Certain Damaged Lemons, qui étaient des très grands disques qu'on a. Je pense qu'on a un peu oublié. Plus que ceux de Sonic Youth, par exemple, d'autres grands rockers libérés new-yorkais. Voilà, et moi pour moi, la
New-yorkais, c'est une chanson à faire, non?
Oui, on peut. J'ai beaucoup de rimes là dans mon.
Ouais, je vois ça.
C'est pas fait exprès. Non, il se trouve que la voix de Kazu Makino a énormément compté pour moi, comme celle de Yoshimi Poi de Boredoms. C'est une voix qui est absolument sensuelle et aussi complètement folle tout le temps. Et ici, on a l'impression qu'elle se libère une deuxième fois. On a écouté ce morceau là qui commence avec cette espèce d'interjection qu'elle dit qu'elle a fait parce qu'elle avait la flemme de chercher d'autres sons d'instruments et qui finit dans cette explosion à la Georges Delerue. Moi, je trouve absolument bref, c'est une symphonie pour cordes, batterie et interjection, et c'est un disque qui est très beau parce qu'il est sublime, il est heurté, il est sublime parce qu'il est heurté. C'est un disque donc qui est sous le parrainage de Sakamoto, mais qui lui a surtout conseillé d'utiliser son nom parce qu'en gros ça allait lui apporter un crédit. Il disait même si tu utilises aucun des sons que je te propose, tu peux y aller. C'est un disque qui sent beaucoup le travail en solitaire, qui sent aussi beaucoup l'insularité. C'est un disque qu'elle a fait à Elbe et je trouve ça très beau parce que c'est une sorte de cercle, puisqu'elle, Elbe, c'est l'endroit d'où sont originaires les deux autres membres de Blonde Redhead, les jumeaux qu'elle a quitté pour faire ce disque, même si d'ailleurs l'un des deux joue de la guitare sur un morceau, mais c'est pas très important. C'est un disque, c'est des retrouvailles, en fait, tout simplement, parce que c'est un disque qui, je pense, donne l'impression de retrouvailles, même si on n'a jamais écouté Blonde Redhead. C'est un peu paradoxal, mais c'est un disque très intime et très ouvert en même temps.
Sophie Rosemont.
Là, je vais rebondir sur cette histoire d'Elbe, qui, effectivement, c'est un album qui est complètement insulaire et qui va très bien avec l'émancipation, parce que c'est vrai que c'est un album solo, bien que beaucoup de choses rappellent la noirceur vaporeuse envoûtante de Blonde Redhead. Donc c'est vrai qu'on pense à Elbe, on pense à Napoléon, mais c'est aussi le lieu où Hervé Guibert se trouver la sérénité, et ça m'a fait rechercher une phrase qui m'avait marqué du protocole compassionnel, donc un des livres d'Hervé Guibert, dont je ne me priverai pas le plaisir de vous la lire.
Ah bah certainement pas.
Moi, je planais complètement, je savais déjà que chaque année, des dizaines de gens curieux, des amoureux, des jeunes filles, des exégètes tarabiscotés et pointilleux feraient le pèlerinage sur l'île d'Elbe pour se recueillir sur ma tombe vide. La curiosité, l'amour, l'éternelle jeune fille, l'exégèse, le fait d'être pointilleuse, tant du point de vue perfectionniste, comme on l'entend au sens courant, qu'en pointillant littéralement sa musique, de façon absolument vraiment très belle. C'est Kazu qu'on retrouve aussi dans ses mots. Même si voilà la présence de Sakamoto, sa bienveillance, on dira plutôt, n'est pas un hasard, parce qu'elle convoque ses références, enfin sa jeunesse japonaise, ses références culturelles japonaises. J'ai beaucoup pensé aussi à un album de Susumu Yokota, qui s'appelle Sakura, qui est sorti en 2000, et où on retrouve ce rapport fusionnel avec les claviers, enrichi de samples de boîtes à rythme, mais qui crée toujours un récit très onirique, synthétique, et voilà, où on revient sur cette espèce de brume, mais à la fois très proche de nous et très réelle, que cultivait à leur manière Blonde Redhead. Et puis il y a aussi ce jeu de mots quand même, Adult Baby. Elle a une voix de femme en forme, bien sûr, qui est ahurissante pour une femme de son âge, mais ça désigne aussi les clubs où des grandes personnes se rendent pour jouer les bébés le temps d'une soirée. Et on pense à la mention adulte des films porno. Donc elle est aussi très très maligne, Kazu, et elle ne fera pas quelque chose uniquement de mélancolique. Voilà, ça rejoint d'ailleurs ces pointillés dont je parlais, qui sont pas seulement des humeurs. Et je rejoins aussi Olivier sur quand il parle de Georges Delerue, il y a quelque chose de très cinématographique dans cet album. Un film se prépare d'ailleurs qui va illustrer, qui sera réalisé par, que je ne me trompe pas, par Eva Michon, je crois, qui va sortir.
Eva Husson peut-être.
Non, pas Eva Husson, Michon, je crois justement. Michon. Pas Eva Husson, étonnamment.
Ça aurait pu.
Bon là, je regarderai le film là.
Et voilà, qui rappelle les grandes envolées orchestrales de Gainsbourg. Serge Gainsbourg, idole absolue de Blonde Redhead, des Jumeaux et de Cazou, et auquel Cazou rend plusieurs fois hommage et tire sa révérence sur cet album, qui j'espère ne sera pas le dernier, mais un Blonde Redhead ne devrait pas tarder à nous parvenir d'ici quelques mois, manifestement.
Vous êtes bien informée, Sophie. Mathilde Serrel, sur cet album de Cazou Mikano.
Alors oui, sur Serge Gainsbourg, je vous le disais, moi j'ai reconnu un peu la bande-son de Sex Shop. Et cette orchestration, justement, ce travail des cordes, et ce sont des cordes un petit peu coquines, c'est-à-dire qu'il y a une grande élégance, et finalement derrière il y a un vrai appel au désir, il y a un désir affranchi, notamment dans le titre Come Behind Me qu'on a écouté tout à l'heure. Donc moi j'ai vraiment pensé à cette position de femme enfant totalement assumée, de cette façon de susurrer et de jouer avec ce charme presque parfois aussi jusqu'à un peu l'écœurement. Moi aussi je trouve qu'à la fin du disque l'adult baby ou la femme enfant me fatigue.
Trop sucré pour vous?
Un tout petit peu, besoin d'insuline sur les deux derniers titres.
Hyperglycémie peut-être.
Peut-être. Moi si j'ai dit message in a bottle, c'est parce qu'il me semble que moi ça m'a fait penser, alors voilà, peut-être que je m'égare, mais en même temps
il pourrait y avoir une théorie, ça pourrait vous servir.
Ah oui, à un film de Claire Denis qui est sorti l'année dernière, qui est un voyage dans l'espace avec Robert Pattinson.
Et un bébé.
Et c'est cette idée, Robert Pattinson est donc dans une colonie pénitentiaire, il envoie des messages sur Terre à des gens qui ne les liront probablement jamais. Et moi j'ai eu l'impression en écoutant ce disque d'un message in a bottle, d'ailleurs c'est un disque insulaire, on l'a dit, donc ça pourrait avoir son sens. J'ai eu l'impression vraiment qu'elle enregistrait un message pour un monde d'après, pour un auditeur qui est pas forcément encore là et qu'on recevrait comme ça dans très longtemps. Il y a pas une attention portée à celui qui va recevoir. C'est un geste tout entier et aussi je trouve un geste. On parlait tout à l'heure de Blonde Redhead et donc de Melody of a Certain Damaged Lemon qui est sublime, un album de 2000, mais aussi Misery is a Butterfly. C'est un album qui va retravailler les mêmes textures. Donc on a parlé de la vapeur, on a parlé de la brume, mais comme si la machine était cassée. Et c'est ça que j'aime beaucoup, notamment ce titre inaugural Salty. Elle a tendance à mettre sa main sur le micro, comme si justement le message qu'elle envoyait, il était aussi un peu endommagé, quoi. On a presque l'impression de vivre une lecture de ce message dans Milan, parce qu'elle abîme le son des machines, elle le retrafique, et donc finalement c'est je trouve plus ambitieux encore que ce qui nous enveloppait dans Blonde Redhead. Donc pour moi, il y a presque un travail de plasticienne dans le disque qui m'a vraiment marqué. Et puis voilà, sur le travail de évidemment cinématographique et sur la musique de film, c'est très intéressant aussi la façon dont elle est convoquée. On ne sait jamais quand est-ce qu'elle va survenir. Elle vient renverser la table d'un morceau. Donc là aussi, il y a un travail de mise en scène qui est, je trouve, d'une justesse et surtout de. C'est très hybride en termes artistiques, bien au-delà d'un disque.
Bon, je vous ai laissé tous développer ce soir. Et peut-être j'ai tort parce qu'il n'y aura pas de deuxième tour de table. Ah encore non. Une fois, bah si, regardez l'heure, Mathilde Serrel.
Pourtant, j'étais courte. Mais,
mais non, mais vous êtes tous et toutes passionnants. Donc, moi, j'ai proposé une synthèse pour aller un peu contre votre théorie, Mathilde Serrel, parce qu'on a beaucoup parlé de pop, en fait, dans l'émission de ce soir, avec plus ou moins de bonheur pour Charlie XCX, hein, une pop. Plus lourdingue et parfois un peu aventureuse mais belle. Niska qui a un sens pop tout à fait évident. Et moi je crois que c'est le disque le plus pop et absolument immédiat, actuel d'aujourd'hui, celui de Cazou Mikano, parce que je pense qu'il y a une évidence. Quand vous parlez de retrouvailles, Olivier Lam, moi c'est mon curseur comptine d'enfance, c'est-à-dire des chansons qu'on entend et qu'on a déjà l'impression d'avoir chantées quand on était petit. Et moi, ça me fait un peu ça. Adult Baby. On pourra la voir en concert Kazuma Kino, le 22 novembre au théâtre Les Étoiles à Paris. Je me demande où est ce théâtre.
Près de Strasbourg-Saint-Denis, c'est une toute petite salle.
Très bien.
Toute petite.
Eh bien,
il va falloir prendre ses places rapidement.
22 novembre.
Sophie Rosemont existe en application également. Voilà. C'était la téléchargée. Infos, les géologues de concert.
Et le 26 novembre, elle sera à Bruxelles. Je n'ai pas le nom de la salle, mais on pourra la trouver, certainement. Avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et David Dana nous a rejoint, comme chaque soir, pour, dans un premier temps, nous rappeler la question du jeu d'hier soir et donner sa réponse, David.
De quel événement historique français 1815 est-il la date? Et la réponse est la bataille de Waterloo.
Alors parmi d'autres réponses possibles, hein, j'ai dit hier qu'avec une question pareille, tout le monde devait gagner. Ce soir, on va voir si la question sera plus compliquée pour gagner des invitations pour aller voir l'exposition Mondrian figuratif. C'est à voir jusqu'au 26 janvier 2020. Imaginez, on va rentrer dans les années 20. Au musée Marmottan, Monet à Paris, quelle est la question?
En quelle année a débuté l'exposition Mondrian au Centre Pompidou Paris?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et David Dana, prise de son ce soir Olivier Arnet. Réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute art plastique avec Corinne Rondeau, Sally Bonnet, Frédéric Bonnet. On parlera de Francis Bacon en toutes lettres. Au Centre Pompidou et Torres Paletti, c'est la Villa Paloma, nouveau musée national de Monaco, et la carte blanche à Hassan Hadjadj, à la Maison européenne de la photo.